Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Pour commencer, nous avons dit que nous devons étudier la Bible parce qu'elle est la source de la vérité. Jésus a déclaré dans Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité », une formidable déclaration. Et nous avons parlé du cynisme de Pilate qui a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» En second lieu, nous vous avons proposé d'étudier la Bible, parce que la Bible est l'unique source de vérité, mais elle est également la source du bonheur. C'est la source de la joie. En fait, nous avons cité les paroles de Jésus. « Si vous écoutez mes paroles et les gardez, ma joie demeurera en vous. » Les paroles de Jean. Et nous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Les paroles des Proverbes. « Heureux l'homme qui m'écoute. » Les paroles de Luc 11, 28. « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Là, c'est la source de la joie. Vous étudiez la parole, vous écoutez ce qu'elle dit, vous extrayez ses principes, vous obéissez à ses principes parce que vous avez à cœur de les respecter, et Dieu déverse la bénédiction et la joie. Vous voulez savoir quelque chose? D'un autre côté, permettez-moi de vous dire ceci. Vous pourriez produire l'obéissance de toutes les manières légalistes que vous souhaitez. Mais si votre cœur n'est pas disposé à le faire, et que vous vous battez contre cela, il ne vous accordera jamais la joie. Car voyez-vous, produire des bonnes œuvres sans avoir un cœur droit ne compte pas. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. La Bible parle de fruits. Elle parle de divers types de fruits. Elle parle du fruit de l'esprit, et c'est une question d'attitude. Et avant qu'il puisse jamais y avoir du fruit dans votre vie, comme par exemple de gagner des gens à Christ, ou étudier la parole de Dieu, ou quoi que ce soit d'autre que la Bible mentionne en termes de fruits, louer, donner, toutes les bonnes œuvres, avant que le fruit qui est visible à l'extérieur ne prenne une quelconque signification, cela doit dériver du fruit de l'esprit au-dedans. Maintenant écoutez ceci, le fruit de l'action, les choses que vous faites, sans le fruit d'attitude, ce que vous ressentez, c'est du légalisme pur et dur, c'est du pharisianisme. Vous pourriez balancer toutes les choses que vous voulez à l'extérieur. Vous pourriez être légaliste jusqu'au bout des ongles, comme les pharisiens, sans pour autant connaître la joie. D'un autre côté, si votre cœur est un cœur d'obéissance, si vous avez une bonne attitude de cœur, vous pourriez faillir à l'extérieur, mais Dieu vous donnera la joie, parce qu'il voit le gracieux esprit d'obéissance de votre cœur. C'est ce qu'il recherche. La promesse est donc ceci. Étudiez la Bible. Pourquoi ? Numéro 1, c'est la source de la vérité. Numéro 2, c'est la source de l'allégresse. Vous dites, « Eh, MacArthur, j'aime vraiment beaucoup ce que vous dites, mais j'ai une information pour vous. J'étudie la Bible tout le temps, et pourtant j'ai beaucoup de douleurs, j'ai plein de problèmes. Eh bien, j'ai un verset pour vous. Heureusement, je ne veux vraiment pas vous lâcher, vous laisser avec cette pensée-là. Dieu ne vous dit pas exactement à quel moment vous allez avoir la joie, d'accord ? Vous aurez peut-être besoin d'attendre un petit moment. » Ainsi, dans Jean 16, il regarde les disciples et il leur dit « Je m'en vais ». Et ils sont tous assis, là, à se morfondre. Vous savez, comme dit le proverbe, ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier. Tout le monde a quitté son métier. Ils suivent tous Jésus depuis 3 ans, et voilà que Jésus se lève et déclare un jour « Les gars, je m'en vais. Je vais vous quitter, et je vais devoir m'en aller. C'est comme ça. » Et ils font tous « Arrête. Attends une minute, mon vieux. Nous avons rejoint ce mouvement en pensant que le royaume allait venir. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il s'est passé quelque chose ? » Et ils étaient tristes et avaient beaucoup de chagrin. Et Jésus a dit dans Jean 16, 20, « en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse. Écoutez à présent, mais votre tristesse se changera en joie. Autrement dit, vous devez réaliser que quelquefois, il y aura du chagrin avant qu'il puisse y avoir de la joie. En fait, voulez-vous entendre quelque chose d'intéressant? Si vous ne connaissiez pas la tristesse, vous ne comprendriez pas la joie quand elle vient. C'est exact. Si vous ne connaissiez pas la souffrance, vous ne connaîtriez pas le plaisir. Vous savez, je lisais récemment un petit article intéressant qui stipulait que la différence entre une démangeaison et un chatouillement ne peut pas être définie médicalement. Et pourtant, un chatouillement est quelque chose qui vous rend heureux, tandis qu'une démangeaison irrite. Une ligne très fine. Saviez-vous que la différence entre le plaisir et la douleur est pareille? Par exemple, vous savez, quelquefois, il n'y a rien de plus merveilleux qu'une douche bien chaude. Et vous savez, vous vous assurez que l'eau chauffe bien, et vous la testez avec un coude, et vous faites « Vous y allez tout doucement, en quelque sorte, et c'est d'abord la douleur, puis tout à coup, ah, c'est du plaisir. Une ligne très mince entre la douleur et le plaisir. Vous savez, j'ai joué au football quand j'étais à l'université, et tout au long de mes années universitaires, j'ai été confronté à cette fine ligne entre la douleur et le plaisir. Vous savez, vous torturez votre corps comme une sorte de maniaque, et c'est de la douleur et de la douleur et pourtant, tout le long, vous aimez cela avec une sorte de plaisir épouvantable, la fine ligne entre la douleur et le plaisir. Et je suppose que nous ne connaîtrions pas le plaisir si nous ne connaissions pas la douleur. Si nous ne connaissions pas la souffrance, nous ne connaîtrions pas la joie que le plaisir est capable de produire. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles Dieu permet le chagrin dans nos vies, c'est pour que nous comprenions la joie lorsqu'elle arrive. Et dis donc que vous allez expérimenter le chagrin pendant un petit moment. Soyez patient. Écoutez, si vous obéissez à la parole de Dieu, il vous donnera la joie. Peut-être pas de manière instantanée, au moment où vous la voulez, mais toujours lorsque vous en avez besoin. Alors pourquoi dois-je étudier la Bible? Qu'est-ce qui doit me motiver à étudier la Bible? Premièrement, la Bible est la source de la vérité. Deuxièmement, la Bible est la source de la joie. Et je vais vous dire, peu importe ce qui se passe dans ma vie à l'extérieur, peu importe les circonstances, quand j'étudie la parole de Dieu, j'expérimente une euphorie et une joie inaltérée par ce que je vis à ce moment-là. Troisièmement, une troisième force de motivation, une troisième raison d'étudier la Bible, c'est que la parole est la source de la victoire. Je ne sais pas pour vous tous, mais pour moi j'aime gagner. Je n'aime pas perdre. Je perds beaucoup, mais je déteste cela. Vous savez, j'aime gagner. Je me dis que lorsqu'on décide de faire quelque chose, il faut le faire franchement. Mon père avait l'habitude de me dire depuis l'époque où je n'étais qu'un petit enfant. « Écoute, Johnny, disait-il, si tu décides de faire quelque chose, fais-le au mieux de tes capacités. Sinon, ça ne vaut pas la peine de le faire. J'ai donc grandi avec cela, la recherche de l'excellence. J'aime gagner, je n'aime pas être en dessous, j'aime être au-dessus. Et je vois cela dans ma propre vie chrétienne. Je n'aime pas offrir une brèche à l'adversaire. » Je n'aime pas lui donner un avantage sur moi, comme cela est dit dans les Épîtres aux Corinthiens. Je n'aime pas voir Satan gagner. Je n'aime pas voir le monde me maîtriser. Je n'aime pas voir la chair prendre le dessus sur l'esprit. Je veux gagner. J'ai le désir de gagner. Je me souviens que mon entraîneur de football avait l'habitude de nous donner une leçon typique de Knut Rockne sur « Vous ne pouvez pas être battu si vous ne voulez pas être battu. » Et je présume que nous devons fonctionner ainsi en tant que chrétiens. Il n'y a aucune raison de donner accès à l'ennemi. Et tandis que vous étudiez la Bible, vous vous rendez compte que la parole de Dieu devient la source de la victoire. David a dit ceci, et vous vous en souvenez autant que moi. « Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas, quoi, pécher contre toi. » La parole constitue donc une source de victoire contre le péché. Quand la parole de Dieu est ingérée, elle devient la ressource dont le Saint-Esprit se sert pour nous guider. Elle cède le contrôle au Saint-Esprit. Vous n'avez aucun moyen d'éviter d'être entraîné dans le péché, à moins que la parole de Dieu ne soit disponible pour que le Saint-Esprit puisse l'envoyer dans votre esprit conscient. Je vais vous dire quelque chose de simple. En tant que chrétien, vous n'opérerez jamais sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Cela n'arrivera jamais. Vous ne serez jamais capable d'opérer sur des principes dont vous n'avez jamais eu conscience. Vous ne serez jamais en mesure d'appliquer la vérité que vous n'avez pas découverte. Ainsi, en nourrissant votre esprit de la parole de Dieu, cela devient une manivelle dont l'Esprit de Dieu se sert pour diriger et guider. À présent, Examinons par exemple le 4e chapitre de Matthieu, l'illustration classique de la confrontation à Satan avec la parole de Dieu. Et ici nous rencontrons Jésus-Christ, et il est dit au verset 1. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté ou testé par le diable. » Pour Dieu, il s'agissait d'un test, parce qu'il n'allait pas échouer. Pour Satan, c'était une tentation, parce qu'il espérait que Jésus échoue. Le terme peut avoir l'une ou l'autre signification. Peirasmos peut signifier un test ou une tentation. Il s'agit d'un terme neutre. Il pourrait prendre un sens positif ou péjoratif. Du point de vue de Satan, il voulait que ce soit le mal. À partir de l'angle de vue de Dieu, il savait que ce serait le bien. Ainsi, l'Esprit l'a conduit dans le désert en sachant qu'il passerait le test. Satan était là à l'attendre, espérant qu'il échoue. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Aucune surprise. Mais je trouve cela intéressant, le fait que Jésus était un être humain tellement parfait, sans péché, qu'on se serait attendu à ce que son corps ait des pouvoirs au-delà de tout ce que nous pourrions jamais expérimenter. Il avait dû être si fort et si viril, et si doté de tout ce que l'humanité peut être dans son potentiel non entamé, au moins comme nous le savons, qu'il n'a pas du tout eu faim de manière considérable pendant ces 40 jours, jusque plus tard, lorsqu'il a vraiment expérimenté les affres de la faim. Finalement, après 40 jours, le tentateur s'étant approché et dit, et ensuite, il lui donne 3 tentations. Et vous vous en souvenez, mais dans chaque cas, Jésus a répondu avec la parole de Dieu. Premièrement, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ce qu'il lui dit en réalité, c'est ceci, « Écoute, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu fait chair, tu es le Messie, tu mérites nettement mieux que ça. Que viens-tu faire dans ce lieu de désolation? Que fais-tu dans cette cambrousse? Tu viens de Jéricho? Que fais-tu ici dans ce désert minable, infesté de bêtes féroces et de choses rampantes? Que fais-tu là, mort de faim? Tu es le Fils de Dieu, le Messie. Prends un peu de plaisir, fabrique ton pain, mec, tu le mérites. » Et il le tentait vraiment à agir de manière contraire au plan de Dieu, en se faisant plaisir. Il disait, « Fais ce qui te semble bien, ne compte pas sur Dieu. Dieu n'a pas encore satisfait tes besoins. Te voilà ici depuis 40 jours. Tu as faim. Tu mérites mieux que ça. » Il le tentait vraiment à douter du fait que Dieu prenait soin de lui. Jésus répondit, et il est écrit, et je cite Deutéronome, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce qu'il disait, c'était ceci. « Regarde, Dieu a promis de prendre soin de moi. Je garderai ma foi en sa promesse. Je n'utiliserai pas mon pouvoir pour violer la promesse de Dieu. Il a contré la tentation avec la parole de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Probablement ce support saillant qui rattache le temple à la vallée du Hinnom, qui fait presque 100 mètres de chute droite. Il l'a hissé là-haut et a dit, « Pourquoi ne pas sauter? Sauter tout simplement. Jette-toi en bas. » Après tout, et le diable dit, « Tu peux citer l'Écriture. Je vais également t'en citer. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu veux faire confiance à Dieu. Tu veux t'accrocher à Dieu. Tu ne veux pas fabriquer du pain. Tu veux croire Dieu. Eh bien, pourquoi ne crois-tu donc pas franchement Dieu, en faisant un vrai plongeon à partir d'ici pour voir s'il accomplira sa parole? Ça sonne bien. Satan est intelligent. Tu peux me montrer jusqu'à quel point tu es capable de faire confiance à la parole de Dieu? Voici une bonne occasion de le prouver. Saute, qu'il t'attrape au vol. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » « Tu fais confiance à Dieu, a dit Jésus. On ne tente pas Dieu. Vous croyez qu'il prend soin de vous pendant vos déplacements? Vous n'allez pas pour autant vous allonger sur l'autoroute. Vous voyez, il y a une différence. » Satan lui a ensuite montré, à partir d'une montagne très élevée, les royaumes du monde. Il dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » 1. C'était déjà assez mal. 2. Était intolérable. 3. C'est absolument suffisant. Va-t'en. Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Et Dieu accomplit toutes ses promesses. Ce qu'il faut retenir est ceci. Jésus a répondu aux tentations de Satan à 3 reprises, et à chaque fois, il a directement cité l'Ancien Testament. Écoutez, en tant que chrétien, c'est la capture de la vérité biblique dans votre esprit conscient qui vous donne la capacité de vaincre Satan. Vous ne pouvez pas le faire de vos propres forces. Jésus a littéralement triomphé du diable grâce à la parole de Dieu. C'est la source de la vérité. Vous ne pouvez pas raisonner. Vous ne pouvez pas vous contenter d'essayer de calmer Satan. Vous savez, c'est incroyable. Mais il y a des gens qui s'imaginent qu'ils peuvent argumenter avec Satan pour se soustraire à la tentation sur la base de leur propre logique. Cela ne se peut pas. Une autre illustration intéressante se trouve dans Luc 4:33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. C'était un type possédé par un démon dans la synagogue, ce qui a dû être assez perturbant pour le service qui s'y déroulait. Il nous arrive d'en avoir dans notre église, de temps à autre. Je suppose donc que je sais ce que ça fait. Et il continuait de dire, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. » Le type était rempli de ses démons, et ils criaient tous, « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Vous savez ce que Jésus a fait, juste là. Il a établi son autorité et son pouvoir sur Satan, avec sa parole. Avec une parole, il pouvait vaincre les démons. Avec une parole, il a déclaré « Va-t'en, Satan !» Avec une parole, il a chassé la légion de démons du démoniaque de Gadara, et ils ont dit de lui « Jamais aucun homme n'a parlé comme cet homme. » Il parle comme quelqu'un qui a de l'autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens. Écoutez, la parole de Jésus-Christ fait absolument autorité. Maintenant, quand vous connaissez la parole de Dieu, vous aurez la victoire. Laissez-moi vous donner une autre illustration. Dans Éphésiens 6:17, dans la discussion de Paul sur l'armure du chrétien, nous réalisons qu'il conclut avec cette grande pièce de l'armure, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est un texte extraordinaire. Il dit que la dernière pièce de l'armure est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Maintenant, quand vous pensez à une épée ou à un soldat romain, vous imaginez un truc de 5 pieds, environ 1,50 m, qu'il traîne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, c'est le terme grec, romphaia. Ce terme ici, le mot grec traduit par épée, est machaira. Et machaira était un terme grec qui désignait un petit poignard, court. L'épée de l'esprit n'est pas une large, énorme et grande épée qu'on se contente de traîner, en espérant qu'elle donne un grand coup à la tête d'un démon, à un moment ou à un autre. Ce n'est pas quelque chose dont on se sert de manière aveugle et sauvage. Il ne s'agit pas de s'acheter une grande et grosse couverture dure de la traduction biblique New American Standard et s'en servir pour frapper les têtes des démons. Ce n'est pas du tout cela. L'épée de l'esprit est une machaira. C'est un poignard. Elle est courte. Elle est percutante. Elle doit frapper une zone vulnérable, sinon elle ne fera aucun dommage. L'épée de l'esprit n'est donc pas quelque chose de général, mais plutôt spécifique. À présent, remarquez également que le terme « parole » ici n'est pas le mot « logos ». Le mot grec normal « logos » s'utiliserait pour une parole générale. La Bible est la « logos ». Christ est la « logos ». Une parole générale est la « logos ». Quand la Bible veut parler de manière spécifique, elle emploie le terme « rhéma » ou « rhémata ». Observez maintenant. Cela signifie une déclaration spécifique. Êtes-vous prêt pour ça? L'épée de l'esprit constitue une déclaration précise de la parole de Dieu, qui touche le point spécifique de la tentation. Vous voyez? Les gens disent, « Eh bien, j'ai l'épée de l'esprit, je possède une Bible. » Écoutez, vous pourriez être propriétaire d'un entrepôt de Bibles, sans pour autant avoir l'épée de l'esprit. Avoir l'épée de l'esprit ne signifie pas avoir une Bible, mais plutôt connaître le principe précis de la Bible qui s'applique au point spécifique de la tentation. Et la seule manière d'expérimenter la victoire dans la vie chrétienne consiste à connaître le principe de la parole de Dieu, à appliquer à l'endroit précis où Satan attaque, où la chair attaque, où le monde attaque. Quand vous vous saturez de la parole de Dieu, elle devient la source de la victoire. Vous voyez maintenant que vous ne pouvez même pas aborder la vie chrétienne sans l'étude de la Bible. C'est la source de la vérité. C'est la source de la joie. C'est la source de la victoire. Laissez-moi vous donner un quatrième. La parole de Dieu est également une source de croissance. Tout le monde veut grandir. Vous savez, si vous ne l'avez jamais vu, que nous avons dans notre Église un merveilleux ministère pour les personnes atteintes d'un handicap mental. Croyez cela ou non, mais certaines de ces personnes sont âgées de 30 ans, et pourtant elles ont l'âge mental d'un bébé, et sont encore dans des couches. Vous savez, c'est quelque chose de triste. Que Dieu bénisse ses bien-aimés. Nous les aimons, et Dieu les aime. Et je crois qu'ils ont une part spéciale dans son royaume. Mais c'est tellement triste de voir une personne qui n'a pas grandi. Vous connaissez quelque chose qui est tout aussi triste? Voir des chrétiens qui n'ont pas grandi, retardés, rabougris, abrutis, ne croissant jamais. Et la raison pour laquelle ils ne grandissent pas, c'est parce qu'ils ne vont jamais dans la parole. Il se peut qu'ils se rendent à l'église. Ils s'assoient là, et ils amènent un dé à coudre à l'église, et ils le remplissent, mais ils le renversent sur les escaliers en rentrant. Rien ne se produit jamais. Ça, c'est triste. Pierre dit ceci, et c'est un texte extraordinaire. 1 Pierre 2:2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous quoi? Croissiez. Autrement dit, la parole est la source de croissance. Vous savez, et tout le monde veut croître. Vous savez, je vais vous dire, quand j'étais plus jeune dans la foi, je me souviens que j'étais au séminaire. À l'université, vous savez, j'étais impliqué dans tout genre de choses, à faire le clown. Je n'avais pas beaucoup grandi. Je suis entré au séminaire, et là j'ai goûté à la parole de Dieu. Et j'en voulais tellement que je pouvais à peine attendre. Je voulais grandir et grandir et grandir. J'avais ce formidable désir de grandir, et j'ai compris que cela n'allait pouvoir se produire que d'une seule manière, et il fallait pour cela que j'entreprenne d'étudier la parole de Dieu. Et ainsi, pendant mes années de séminaire, je me suis déterminé à véritablement commencer à étudier la parole de Dieu de manière systématique, et c'est à ce moment que j'ai commencé à croître. Ma croissance, et je vais vous dire franchement, ma croissance est directement proportionnelle au temps que je passe et aux efforts que je fournis dans l'étude de la parole de Dieu. Quand je passe un certain temps sans étudier la parole de Dieu, je ralentis, et dès que je recommence à étudier, j'accélère. Je présume que les pires moments de ma vie en termes de croissance sont mes périodes de vacances pendant lesquelles je me contente de me laisser vivre, sans faire grand-chose, et je ralentis en quelque sorte. C'est une bonne chose cependant, parce que je médite un tout petit peu, mais le modèle de croissance n'a rien à voir avec ce qui se passe quand je suis vraiment dans la parole. Chose intéressante. Le verset 1 pose en quelque sorte la fondation. Il est dit que nous devons commencer par mettre de côté toute malice. C'est le terme grec « kakia », qui signifie le mal en général. Vous devez rejeter le péché, la ruse. Ruse signifie tromperie. Il s'agit du mot grec qui est traduit par leurre, l'hypocrisie, l'envie, et les mauvaises paroles, la dissimulation, l'envie, et toute médisance. Autrement dit, vous vous débarrassez de toutes les mauvaises choses, vous confessez votre péché, vous mettez votre vie en ordre, vous nettoyez votre acte, et ensuite, vous vous attaquez à la parole, avec grand désir, et puis vous commencez à croître. C'est ce que la parole est capable de produire dans votre vie, vous faire croître. Vous savez, plus vous grandissez, plus cela devient passionnant. La parole est une source de vie. Vous devenez mature, vous êtes enrichi, vous devenez plus fort, et en devenant plus fort, vous êtes capable de vaincre Satan. En devenant plus fort, vous parvenez à mieux connaître Dieu et son caractère. Vous êtes enrichi de toute manière possible. Dans Jean 6:63, Jésus a dit ceci, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jérémie a déclaré, « J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. » Se nourrir de la parole de Dieu. Et encore dans Jacques 1:18, il est dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. La parole donne la vie. La parole soutient la vie. La parole construit la vie. » Elle constitue un aliment extraordinaire. Je pense que c'est 1 Timothée 4 qui complète notre compréhension de ceci, au verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu feras un bon ministre de Jésus-Christ. Écoutez cette formidable ligne. Nourris des paroles de la foi. La parole nous nourrit. Elle constitue un aliment pour nous. Elle nous édifie. Elle nous fait grandir. La fin de 2 Pierre, après qu'il ait donné des déclarations extraordinaires sur l'effondrement de l'univers, et après avoir parlé des éléments qui fondent sous l'effet de la chaleur ardente, et toutes ces autres choses, et comment tout cela va tomber dans une collision. Il dit, que devons-nous faire? Nous devons croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, grandir, grandir et grandir, tandis que nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Dieu désire que nous devenions matures. Il veut que nous soyons édifiés. Il nous veut forts. Et en fait, vous savez, si vous examinez 1 Jean 2, vous y trouverez le modèle de croissance, l'une des écritures les plus importantes de toute la Bible. Écoutez ce qui est dit. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Vous voyez 3 catégories. Les pères, les jeunes gens et les petits enfants. Et vous remarquerez 3 différences. Je vous écris, petits enfants, vous avez connu le Père. Je vous écris, jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Je vous écris, Père, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Maintenant, savez-vous ce que sont ces 3 choses? Ce sont des catégories de croissance spirituelle. Il ne s'agit pas des petits-enfants au sens propre du terme, ni des jeunes gens, ni des pères. Cela ne servirait strictement à rien d'écrire ces versets à l'intention des petits-enfants. Ils ne seraient pas capables de les lire de toute manière. Il est question des niveaux de croissance spirituelle. Maintenant, nous démarrons tous comme des petits-enfants. Nous prenons tous le départ, et nous connaissons le Père. C'est le areux spirituel. Vous ne savez pas grand-chose quand vous êtes nouvellement chrétien, mais vous pouvez chanter « Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit », et ainsi de suite. Le gazouillis spirituel, vous voyez. Mais vous ne vous contentez cependant pas d'en rester là. Ce serait vraiment triste. Vous allez au second niveau, les jeunes gens. Qu'est-ce qui caractérise un jeune? Il a vaincu le malin. C'est au passé composé. C'est qui le malin? Satan. Vous dites, vous essayez de me dire que je pourrais atteindre un niveau de ma vie où je triompherais vraiment de Satan? C'est absolument exact. Vous voulez dire que je peux dire, j'ai vaincu le malin? C'est bien cela. Comment? Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. À présent, écoutez ceci. Pour vaincre le malin, Satan, il faut être fort. Il n'existe qu'un moyen d'être fort, et cela consiste à avoir la parole de Dieu en soi. Écoutez maintenant. Savez-vous ce qu'est un jeune homme spirituel? Un jeune homme spirituel est une personne qui connaît vraiment la parole. Quelqu'un qui connaît vraiment la parole. Voici pourquoi je dis cela. D'après 2 Corinthiens 11, Satan vient déguisé en ange de lumière. Je crois, d'après la Bible, que Satan passe 99,9% de son temps dans les faux systèmes religieux. Je pense que les bars et les problèmes de prostitution et le crime et la convoitise, le monde et le matérialisme et tout le reste d'impureté, je pense que tout ce genre de choses est très bien géré par la chair. Lisez Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair sont les suivantes, et on les liste toutes. Je ne pense pas que Satan court ça et là, en vous donnant un petit coup dans les côtes par rapport à un quelconque petit péché. Je pense que Satan est occupé à développer des systèmes mondiaux de mal. Satan se présente comme un ange de lumière. Ses ministres sont des anges de lumière. Il opère dans les fausses religions. Et un jeune homme spirituel, écoutez, c'est quelqu'un qui triomphe de Satan dans ce sens qu'il connaît suffisamment la parole de Dieu pour ne pas être séduit par les fausses religions. Elle l'irrite plutôt. Par exemple, la caractéristique d'un enfant spirituel, c'est, d'après Éphésiens 4:14, qu'il est ballotté ça et là et emporté à tout vent de doctrine. Les bébés spirituels ont du mal avec la fausse doctrine. Les jeunes gens spirituels sont des personnes qui connaissent leur Bible. Ils connaissent leur doctrine, ce qui fait que la fausse doctrine qui vient de Satan ne les attire pas du tout. Il y a cependant un troisième niveau. Il dit, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Écoutez à présent ceci. Savez-vous qui est le Père? Il s'agit là d'une personne qui est allée au-delà de la page. Elle ne se contente pas de connaître la doctrine. Elle connaît le Dieu qui se trouve derrière la doctrine, vous voyez. Maintenant, dans ces 3 étapes, vous avez les progrès de la croissance spirituelle. Nous démarrons en tant que bébés. Mais en nous nourrissant de la parole de Dieu, nous prenons des forces. Nous ne triomphons jamais de la chair. mais nous pouvons vaincre le monde. Notre foi le fait. 1 Jean 5. Nous pouvons surmonter les efforts de Satan à travers la fausse religion. La doctrine produit cela. Nous n'allons jamais vaincre la chair. Elle sera toujours un problème. Nous pouvons cependant expérimenter la joie de vaincre les faux systèmes religieux de Satan. Je n'ai encore jamais vu cela arriver. Je suis capable de dire chaque fois qu'un gars ou une fille devient une jeune personne spirituelle, ils parviennent invariablement au point où la fausse religion les met en colère, et ils veulent sortir combattre des sectes. Et ensuite, au fur et à mesure qu'ils mûrissent et traversent cette étape, ils ne sont plus si soucieux de lutter contre les sectes. Ils commencent à goûter à qui Dieu est. Ils commencent à sonder la pensée du Dieu éternel. Et ils commencent à s'étirer pour devenir un père spirituel et marcher dans la présence de celui qui est saint. C'est vers cela que nous devons aller dans notre croissance. Écoutez, vous vous privez en restant bébé. Vous vous privez si vous demeurez une jeune personne spirituelle et que vous vous contentez de connaître la doctrine. Vous devriez parvenir au niveau où vous commencez à marcher dans la présence même du Dieu de l'univers, où vous commencez réellement à le toucher lui-même. C'est la fin ultime de la croissance. Ainsi donc, lorsque vous étudiez la parole, elle devient une source de croissance, exactement comme elle est la source de la vérité, la source de la joie, la source de la victoire. Laissez-moi vous en donner encore deux. Je crois également que la parole de Dieu doit être étudiée parce qu'elle est la source du pouvoir. Vous savez que c'est la parole de Dieu qui vous remplit de pouvoir, et qu'il n'y a rien de pire que le sentiment d'être un chrétien impuissant. Vous savez, vous lisez Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance, et un type vous saisit et dit que le mot puissance est dynamis. Vous serez une dynamite. Vous savez, et vous l'entendez dire, mon petit, vous devriez exploser partout dans le monde. Et vous vous dites, exploser, je ne pétille même pas. Je pense que je suis un raté, un nul, je n'ai pas de puissance. Quelqu'un vous dit, vous devriez sortir et gagner des âmes à Christ. Et vous dites, vous plaisantez, certainement pas moi. Vous savez, je suis comme Moïse, je ne sais pas parler. Vous voyez, nous nous débattons vraiment avec notre impuissance. Nous ne savons pas ce qu'est la puissance. Écoutez, la parole de Dieu vous imprègne de puissance. Je peux vous dire, à partir de ma propre vie, plus j'en sais au sujet de la parole de Dieu, et moins je crains au sujet de n'importe quelle situation, parce que je connais la ressource pour cette situation. La parole de Dieu devient une source de puissance. En fait, elle constitue une sorte de pouvoir, quelle que soit la manière dont vous la regardez. Dans l'Épître aux Hébreux 4:12, nous lisons « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est un livre puissant. Laissez-moi vous dire, vous prenez ceci et vous le lisez, et cela va vous couper le sifflet. C'est quelque chose de puissant. C'est un livre puissant. L'apôtre Paul a dit, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. » Et vous savez, quelquefois vous prenez un moment avec un type, et vous commencez à ouvrir l'Évangile, et vous pouvez voir la puissance de l'Évangile de Dieu, et mettez tout simplement chaque bout de philosophie que ce gars aura passé 20 ans à bâtir. Dans Éphésiens 4:23, il est dit d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Dans Romains 12, il est dit que nous pouvons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Dans 2 Corinthiens 3:18, il est dit que nous pouvons littéralement être transformés par le Saint-Esprit dans la gloire même de Jésus-Christ. Et vous concentrant sur la parole de Dieu, elle a un pouvoir dans votre vie qui est extraordinaire. Quand vous la méditez, elle vous rend puissant. Vous savez, c'est un peu comme le vieux truc de l'informatique, à donner inexact, résultat erroné. Quel que soit ce que vous pompez dans votre ordinateur, c'est exactement ce qui va régurgiter dans votre vie. Et en vous nourrissant de la parole de Dieu, en pompant la parole de Dieu en vous, c'est exactement ce qui va sortir quand on appuiera sur vos boutons. C'est la source d'énergie, la source de pouvoir. En fait, dans Éphésiens, il y a un troisième chapitre, extrêmement riche. Et dans les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, l'apôtre Paul déclare « À présent, j'aimerais que vous appreniez ceci, et appreniez ceci, et appreniez ceci. Ce n'est rien d'autre que de la théologie. De la théologie, de la théologie jusqu'au verset 13. davantage de théologie, de théologie, de théologie, de formidables vérités, des vérités extraordinaires. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous avons été pardonnés. Nous avons été rachetés. Nous avons été acceptés dans le bien-aimé. Nous avons reçu la sagesse et la prudence. Nous avons reçu l'information de la connaissance des âges pour connaître le plan éternel de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été accordé, et toutes ces choses incroyables sont à nous, et il continue encore et encore. Nous sommes devenus un homme nouveau. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Le mur de séparation entre les Juifs et les païens a été abattu, et nous sommes réunis en un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Les richesses insondables du Christ sont à nous. Il nous a été accordé les mystères de Dieu. Les richesses incroyables sont à nous. Et il poursuit et poursuit encore. Et il prie au chapitre 1. Je prie Dieu que vous compreniez, que les yeux de votre intelligence s'ouvrent, afin que vous compreniez et saisissiez ces vérités extraordinaires. Et après avoir dit tout cela, si seulement vous pouviez vous saisir de ces vérités, si seulement vous pouviez apprendre ces vérités. Il dit ceci en 3:20. Écoutez ça. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, vous voyez, les ressources. N'avez-vous jamais imaginé, au fait, que vous êtes capable de faire tout ce à quoi vous pouvez penser? N'avez-vous jamais imaginé, au fait, que vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce que vous pouvez penser? N'avez-vous jamais imaginé que vous pouvez faire, infiniment, au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser? C'est beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas? Il n'y a vraiment aucune raison de tourner en rond, franchement, avec ce genre de ressources. Quand vous vous nourrissez de la parole de Dieu, elle a un effet puissant. Elle fait de votre vie une source d'énergie face à n'importe qui et à n'importe quel moment. Donc, nous devons étudier la parole de Dieu, parce qu'elle est la source de la vérité, la source du bonheur, la source de la victoire, la source de la croissance, la source de la puissance, et encore un autre. Nous devons étudier la parole de Dieu parce qu'elle constitue la source de direction. La direction. Vous savez, chaque fois que je veux savoir ce que Dieu veut que je fasse, je vais dans la parole. Les gens disent « Oh, je cherche la volonté de Dieu ». Vous les entendez dire cela tout le temps. J'ai écrit un livre à ce sujet. Elle est là, la volonté de Dieu, juste pour que les gens sachent qu'elle n'était pas perdue. Tout le monde veut trouver où est la volonté de Dieu. Il s'imagine que Dieu est le lapin de Pâques universel qui cache des choses dans les buissons et s'installe au ciel et dit « Vous n'êtes pas loin ». Ce n'est pas vrai. La volonté de Dieu est facile à trouver. Elle est juste là, dans ce livre. Si vous étudiez la Bible, vous trouverez encore et encore la phrase « Voici la volonté de Dieu. Voici la volonté de Dieu. Voici la volonté de Dieu. » Et vous pouvez connaître la volonté de Dieu en étudiant la parole de Dieu. Que dit le psaume 119-105? Il dit tout simplement « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Très simple. La parole constitue un guide. Quand j'ouvre la parole de Dieu, elle me guide. C'est impressionnant comme Dieu me parle à travers sa parole. Si j'ai une décision à prendre, je trouve l'endroit où, dans la Bible, peut-être dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, quelqu'un s'est débattu avec une décision similaire. J'essaie de voir comment Dieu l'a conduit. Ou alors je me rends vers un texte de la Bible qui me donne une réponse directe. Dieu nous conduit à partir de son livre. Il nous dirige à partir de son livre. Vous savez, il y a également un élément subjectif à cela. En tant que chrétien, nous avons le Saint-Esprit. 1 Jean 2:20 déclare que l'Esprit vit en nous. 1 Jean 2:27 dit que nous avons une onction qui vient de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une sagesse humaine. Le Saint-Esprit nous enseignera. Et ce qui se passe, c'est ceci. Quand vous étudiez la Bible, le Saint-Esprit en vous prend la parole de Dieu et en fait une application personnelle qui vous fournira la direction dont vous avez besoin. C'est la combinaison extraordinaire que d'avoir la vérité et l'enseignant de vérité qui réside en vous. Et les deux mis ensemble dirigent le croyant. Et qu'avons-nous donc dit? Des choses formidables. Les avantages à étudier la Bible. C'est la source de la vérité, du bonheur, de la victoire, de la croissance, de la puissance et de la direction. Permettez-moi à présent de dire ceci, et nous terminerons pour cette fois. Quelle devrait être votre réponse? Vous dites « Aïe, 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 je dois travailler cela ». Si c'est réellement vrai, Si la Bible va vraiment faire toutes ces choses, alors que dois-je faire? Laissez-moi juste vous donner rapidement quelques trucs. Êtes-vous prêts? Observez à présent. Premièrement, croyez-y. Croyez-y. Ce que je veux dire, c'est que si la parole le dit, croyez-le fermement. Jésus a dit à Pierre une fois, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et il a répondu, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, même si tu le voulais, tu ne pourrais pas te débarrasser de moi. J'ai trouvé la source, je ne bougerai pas d'ici. Si c'est la vérité, alors accrochez-vous-y, croyez-y. » Deuxièmement, honorez-la. Si la Bible est la parole de Dieu, alors honorez-la. Dans Job 23:12, il y a cette magnifique déclaration de Job où il dit « J'ai serré les paroles de sa bouche, plus que ma provision ordinaire. » Version Martin. Écoutez, si ceci est la parole de Dieu, et qu'elle fera tout ce que nous venons juste de dire, alors croyez-la et honorez-la. En fait, dans le psaume 138:2, le psalmiste a dit « Car tu as exalté ta parole, saisissez ceci. » Au-dessus de tout nom, version Darby, n'est-ce pas extraordinaire? Dieu honore la parole. Vous savez, à Éphèse, ils adoraient la déesse Diane ou Artémis. Eh bien, je vous dis, nous imaginons la déesse Diane. Vous savez, comme quelqu'un de svelte, de beau. La déesse Diane était une horrible et laide bête noire, à l'apparence grossière. Mais ils adoraient constamment ce truc à l'apparence stupide. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une superstition selon laquelle ce machin serait tombé du ciel, et s'il était tombé du ciel, alors il était digne d'honneur. Laissez-moi vous dire quelque chose au sujet de la Bible. Elle est tombée du ciel. Ce n'était pas le cas de cette statue. La parole est vraiment issue du ciel. Elle est digne d'honneur. Alors croyez-la et honorez-la. Troisièmement, je vous proposerai de l'aimer. Si elle est entièrement vraie, alors vous feriez mieux de l'aimer. Le psalmiste a crié et a dit « Oh, comme j'aime ta loi. Oh, que j'aime ta loi. » Psaume 119. Il l'a dit. Et j'aime le 19e psaume qui dit « La loi est pour moi plus douce que le miel, et que ce qui distille des rayons de miel est plus précieuse que l'or, et que beaucoup d'orfins. » Lisez le psaume 19, 7 à 10. L'une des portions les plus belles. Si c'est ce qu'elle dit, alors croyez-la, et honorez-la, et aimez-la, et laissez-moi vous donner une quatrième chose. Juste pour vous rappeler ce que nous avons dit plus tôt. Obéissez-y. Si c'est réellement vrai, obéissez-y. Répondez-y. Dites-lui oui quand elle parle. Continuez dans la parole. Suivez l'exhortation de 1 Jean 2:5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Si elle est vraiment ce qu'elle prétend être, alors croyez-y. Honorez-la. Aimez-la. Et obéissez-y à tout prix. En fait, dans Romains 6, 16, il est dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Si vous vous soumettez à Dieu comme serviteur, alors obéissez à Dieu. Cela fait tout simplement partie de l'arrangement. Obéissez à Dieu. Cinquièmement, j'aime celui-ci. Battez-vous pour elle. Si c'est réellement vrai, alors battez-vous pour elle. » En fait, dans Jude 3, il est dit « combattre pour la foi ». Et la foi, dans ce passage, signifie le corps de vérité révélé. Agonisez pour elle. Engagez-vous dans un combat pour défendre la parole de Dieu, si elle est réellement vraie, si elle est vraiment capable de faire les choses dont nous avons parlé. Croyez-y, honorez-la, aimez-la, obéissez-y, et battez-vous pour elle. Permettez-moi de vous en donner un autre, prêchez-la. 2 Timothée 4:2. Paul dit tout simplement ceci. Timothée prêche, quoi? La parole. Si elle est réellement vraie. Alors prêchez-la. Finalement, croyez-y, honorez-la, aimez-la, obéissez-y, combattez pour elle, prêchez-la, êtes-vous prêt pour celui-ci, étudiez-la. En fait, à Timothée, il a dit dans 2 Timothée 2:15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Et l'expression « dispenser droitement » signifie « couper droit ». Faites une coupe droite, mon ami. Étudiez-la, afin d'être capable de l'interpréter correctement, sans aucune hésitation. Faites une coupe droite. Et Paul employait le langage d'une personne qui fabrique des tentes. Un faiseur de tentes utilisait diverses peaux pour fabriquer une tente, et il prenait chacune de ces peaux d'animaux et coupait directement chaque morceau, afin d'être capable de les rassembler. Si on ne coupe pas chaque morceau comme il faut, l'ensemble ne peut pas tenir. Ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas avoir de la théologie sans exégèse. On ne peut pas avoir une théologie complète du christianisme sans s'être assuré au préalable d'interpréter correctement chaque verset. Faites une coupe droite, et pour cela, il faut étudier. Spurgeon a dit, « Chaque chrétien doit étudier la Bible jusqu'à ce que son sang en devienne imprégné. » Savez-vous ce qui a été dit au sujet d'Apollos ? Apollos a été félicité dans le Nouveau Testament. Il a été dit qu'il s'adonnait aux Écritures. Ainsi, ma prière pour vous, pour commencer, c'est que vous étudiez la parole de Dieu, que vous la proclamiez, que vous vous battiez pour elle, que vous y obéissiez, que vous l'aimiez, que vous l'honoriez, que vous y croyiez. Maintenant, dans nos deux prochaines études, nous allons parler de comment étudier la Bible. Partageons une parole de prière. Père, nous te remercions de ce que nous pouvons aborder ton livre avec une telle anticipation, sachant ce qu'il fera dans nos vies, et par cela nous pouvons te glorifier. Au nom de Jésus. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.